Retour dans le studio avec mon ami et compère Léon Morin et Ingrid Rio-Creux aux éditions qui publient un ouvrage Langue des médias aux éditions L'Artilleur. Et Léon s'est chargé d'éplucher dans les moindres détails cet ouvrage. Ingrid Rio-Creux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je cède la parole à Léon qui a beaucoup de questions à vous poser.
Alors le sous-titre de l'ouvrage, donc la destruction du langage et la fabrication du consentement. Donc nous allons décrypter un petit peu les médias aujourd'hui et grâce à votre ouvrage qui fourmille d'exemples qui permettent de mettre en avant ce qui cloche dans les médias. Vous commencez, Ingrid Rio-Creux, par l'image de la vitre sale. Et il faut noter que vous définissez l'information qui est, je cite, « la mise en mots de l'événement qu'impose la nécessité d'en parler. Elle n'existe pas en dehors de son contexte de transmission, de point. En tant que discours, elle est produite par celui qui veut la transmettre. L'information, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais la communication de ce qui s'est passé. » Et en quoi, aujourd'hui, la communication de ce qui s'est passé est déformée par une vitre sale?
Alors oui, en fait, quand je rappelle ça, ça paraît être une évidence, mais j'ai constaté que on a tendance à croire que l'information, c'est l'événement lui-même. Or, je voulais rappeler, tout simplement, quand je dis on a tendance à croire que, je me suis rendu compte que c'était vrai même dans le discours des journalistes. C'est-à-dire que l'événement, en fait, ça ne parle pas. Hein. Donc, quand un camion rentre dans un bus, ça fait boum, ça ne dit rien, quoi. Et après, il va falloir dire un camion a percuté un bus, ou alors collision entre un camion et un bus, et etc. etc. Et on peut dire beaucoup de choses sur une collision entre un camion et un bus. Il fallait rappeler tout simplement que l'information est un discours. Or, un discours n'est jamais neutre. Les mots, on les choisit, même à son insu. Et les mots, ils vont avoir une certaine portée. Ils vont conditionner une lecture des événements. Et si je voulais le rappeler, c'est parce que, justement, les journalistes ont tendance à dire des choses comme « Nous, on est neutre, on ne juge pas, c'est l'actualité qui nous commande ». Ça, ce sont des citations de journalistes que je mets dans mon livre. Elles sont référencées. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont une espèce de vitre transparente à travers laquelle nous pouvons voir le monde. Or, bien sûr, cette vitre, elle est salie. Elle est salie parce que le discours, il est plein de petites fautes. Alors, il y a les fautes de français, il y a des phrases bizarres, il y a tout ce qui va relever de la forme très concrète du discours. Et puis, il y a ce qui va relever du fonctionnement même de ce discours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne réfléchit pas aux mots qu'on emploie, ben on va employer des mots qui sont connotés, qui sont porteurs d'un implicite idéologique. Et donc, au final, la vitre, elle est déformante.
Mais il y a pourtant une grande institution qui se charge de nettoyer cette vitre, c'est le CSA, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent probablement bien, puisque le CSA contrôle et garde l'oreille attentive à tout ce qui est prononcé sur cette radio, sur cette antenne. Et en quoi aujourd'hui le CSA remplit justement un rôle idéologique ?
Je vais vous raconter une anecdote qui, moi, m'a beaucoup frappée. Quand je suis intervenue pour parler de ce livre sur une radio étrangère, quelques jours avant l'entretien, le journaliste m'a dit au téléphone « Surtout, n'essayez pas de parler du CSA, c'est vraiment une aberration à la française. » Donc, il considérait que ses auditeurs n'allaient pas réussir à comprendre ce que c'était que le CSA. Alors que nous, on s'est vraiment habitué à l'existence du CSA. Donc, pour lui, c'était quelque chose d'incompréhensible, un espèce d'organisme de surveillance, vraiment un truc typiquement français et vraiment bizarre. Et en fait, si on regarde comment fonctionne le CSA, moi je pars donc des problèmes de langue. Et le CSA semble être bien engagé sur la question de la qualité de la langue à l'antenne. Il organise des journées de la francophonie dans les médias, etc. Et en fait, bon, si on regarde comment c'est traité cette question-là, grosso modo, on traque les anglicismes, on les traque une journée par an, on en rigole un peu, et puis on revient à notre métier sérieux, qui est d'être journaliste, avec notre responsabilité de faire en sorte que les gens ne pensent pas n'importe quoi, au sens moral du terme. Et c'est là qu'on voit justement que le CSA, là où il va intervenir de manière beaucoup plus sévère et intransigeante, c'est sur les questions de rectitude idéologique. Et donc je donne plusieurs exemples dans mon livre, mais le plus frappant parmi les exemples récents, enfin qui m'avait frappé moi, c'est l'intervention du CSA suite à l'interview de Robert Ménard chez Anne-Sophie Lapix. Donc Anne-Sophie Lapix animait un débat entre Robert Ménard, accusé d'avoir fiché les enfants musulmans de Béziers, et deux interlocuteurs qui étaient clairement opposés à Robert Ménard. Et il a été reproché à Anne-Sophie Lapix par le CSA d'avoir été trop neutre, en fait, de n'avoir pas clairement dit que la position de Robert Ménard était mauvaise. Voilà. Donc ils ont fait un communiqué pour dire qu'il y avait un devoir d'exemplarité de la télévision, et donc que Anne-Sophie Lapix aurait dû clairement prendre position, alors qu'elle était, je rappelle, animatrice du débat.
Et vous citez Édouard Bernays, la démocratie, ce n'est pas l'espace de la pensée libre. C'est-à-dire que Édouard Bernays est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Propaganda, qui a été écrit au début du siècle dernier, dans les années 20. Mmh. Et en quoi cette propagande, justement, s'est invitée aujourd'hui dans les médias ?
En fait, ce qui est intéressant avec Bernays, je cite aussi Lippmann, hein, la notion de fabrique du consentement, ça vient de là, c'est que c'est des gens, en fait, qui ont été impliqués dans les médias au moment où sont nés les médias de masse. Et même, c'est-à-dire dans les années 20, hein, et même juste avant, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale, qui marque vraiment la naissance de la propagande de masse, de la manipulation des masses en démocratie. Hein, on se rappelle donc du comité Creel pendant la Première Guerre mondiale, dont le but a été vraiment de retourner en quelques mois l'opinion américaine, qui avait élu, donc les Américains avaient élu le président Wilson sur un programme isolationniste, hein, on va pas s'engager dans les affaires européennes, et en quelques mois, il a fallu en faire des partisans de l'engagement dans le conflit européen. Donc, et ils sont intervenus à partir de 1917. Et le fonctionnement extrêmement efficace des techniques de propagande mises en œuvre à cette époque-là a donné lieu après à des réflexions de la part de gens comme Bernays ou Lippmann sur l'efficacité des techniques de propagande. Et ces techniques de propagande ont commencé à être appliquées dans la presse avec le développement des médias de masse, financé par la publicité dans les années 20, et ils vont se développer, c'est des médias de masse avec leur puissance de manipulation idéologique, vont prendre leur essor ensuite dans les 30 Glorieuses, puisqu'évidemment, étant financés par la publicité, ils se développent particulièrement quand il y a une hausse du pouvoir d'achat. Donc on voit que tout ça est lié à la fois l'illusion qu'on a un accès facile à une information apparemment neutre et s'adressant à tout le monde, et en même temps le fait que derrière se cachent aussi bien des intérêts financiers que des stratégies d'orientation idéologique.
Et vous nous décrivez presque un système totalitaire. Vous écrivez, il y a donc bien une continuité fonctionnelle entre propagande totalitaire et matraquage médiatique en contexte démocratique.
Oui, on a tendance à croire que il y aurait la manipulation, la propagande, et que ce serait le propre des régimes totalitaires, et que en démocratie il n'y aurait pas ça, il y aurait juste de la communication. Voilà. En fait, si on regarde les fonctionnements, c'est le même fonctionnement. Ce qui change, c'est la vision que nous avons du régime ou de l'organe qui applique ces méthodes. Je rappelle quand même que les méthodes appliquées par le comité Creel pendant la Première Guerre mondiale vont être étudiées et récupérées par Goebbels dans les années 30. C'est lui-même qui l'a dit. Il a lu Bernays, il a lu Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Donc il y a une continuité fonctionnelle entre communication en démocratie et manipulation dans un régime totalitaire. Et là encore, j'insiste, ce n'est pas moi qui invente ça, ça vient tout simplement d'un livre qui s'appelle La parole manipulée, qui est écrit par Philippe Breton, qui est prof dans une école de journalisme à Strasbourg, et qui a très bien montré cette continuité fonctionnelle.
Et gauche ou droite, faux problème, c'est une des parties de votre ouvrage, et qui indique que les journalistes votent à 80% à gauche à peu près, selon un sondage publié par l'hebdomadaire Marianne. Le journaliste, je cite, qui n'est pas attentif à la manière dont son point de vue peut contaminer son vocabulaire, fournit une information polluée, probablement sans même s'en apercevoir. Est-ce que c'est le drame aujourd'hui des médias ?
Oui, absolument. Il y a cette espèce de d'illusion de neutralité qui est entretenue notamment par l'idée de service public, enfin mais bon, enfin là encore le problème ne peut pas se réduire à ça, hein, parce que moi je prends mes exemples aussi bien sur iTélé que sur France Info, c'est le même discours. Là encore, réduire le problème à la différence entre gauche et droite, ça oblige à passer à côté, c'est trop restrictif si vous voulez, ça oblige à passer à côté de l'orientation globale de ce discours, de ses sous-entendus idéologiques. Et par exemple, je montre dans mon livre que ce serait vraiment se tromper que de croire que le journaliste est une espèce d'ultra-progressiste. En fait, si on regarde vraiment les prises de position sur les sujets sociétaux ou des choses comme ça, c'est un progressisme plutôt timide. On a l'impression qu'il y a une espèce de personne archétypale qui serait le journaliste et qui veut avoir l'impression d'entériner quelque chose d'inévitable. C'est pas des révolutionnaires. Ils sont pas, par exemple, si vous regardez sur la question de la révolution sexuelle, les journalistes, ils n'en sont pas à la légalisation de l'inceste. Alors que c'est quelque chose qui est déjà en train d'avancer beaucoup. C'est très intéressant de lire des choses là-dessus, mais eux, ils en sont pas là. Quelqu'un qui dirait on a bien accepté le mariage gay, alors pourquoi pas le mariage entre frères et sœurs, serait considéré comme faisant un dérapage. Voilà. Dans quelques années, ce sera pourtant un argument. Ce sera un argument qui sera même défendu par les journalistes eux-mêmes. Mais on voit qu'il y a une progression qui se fait, et le journaliste, il n'intervient que quand il a l'impression que maintenant il faut valider cette idée parce qu'elle s'est imposée. Et on le voit, on l'a vu très récemment, si vous regardez, il y a encore 2 ans, on parlait de mère porteuse. Maintenant, les journalistes n'emploient plus mère porteuse. Mère porteuse, c'est une expression qu'on trouvera uniquement dans la bouche des opposants à la GPA. Et le journaliste, il dit GPA.
Et justement, la progression, elle se passe aussi dans les mots. Par exemple, est-ce qu'il faut dire plutôt avortement quand on est journaliste ou interruption volontaire de grossesse?
Ben voilà, là, typiquement, on a un cas qui nous montre qu'une information peut pas être neutre, parce que vous allez devoir trancher. Et si vous allumez iTélé, vous savez déjà dans quel sens ils vont trancher. Puis si vous allumez TV Liberté, ils trancheront dans un autre champ, dans un autre sens.
Et dans lequel ?
Le mot avortement, on va le trouver évidemment plutôt dans les médias proches de la mouvance pro-life. Et puis IVG, ça va être plutôt connoté pro-choice.
Voilà, donc. Pro-vie et pro-choix.
Voilà. Oui, pardon. Ouh là là.
Le CSA nous écoute.
Alors que le cochon me regarde.
Nous sommes amoureux de la langue française et le cochon est devant vous.
Et un autre exemple, musulmans et islamistes. En quoi est-ce que ça, c'est une nouvelle notion aussi qui est apparue?
Mais je rappelle dans mon livre que à l'origine, hein, si étymologiquement l'islamiste c'est le musulman, ça a théoriquement le même sens. Hein. On a opéré une différence en fait à partir des années 70 quand il a fallu distinguer ce qu'on a appelé l'islam pacifique de l'islam politique militant. Aujourd'hui, on dirait djihadiste, etc. Mais on voit bien que ce sont des notions qui sont difficiles à manier et surtout, moi, c'est ce qui me frappe, la distinction entre musulmans et islamistes, elle est déjà très peu explicite, mais il faut absolument faire comme si elle était évidente, sinon c'est de l'islamophobie, etc. Mais surtout, c'est une distinction que j'appelle une distinction de journaliste, parce qu'on la retrouve ni dans le discours des islamologues, ni dans le discours des théologiens. Donc c'est une distinction de commentateur qui a un fondement purement idéologique. C'est typiquement le genre de distinction qu'on va faire pour préserver la paix sociale, pour qu'il n'y ait pas, comme on dit, d'amalgame. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une distinction comme ça, qui est conceptuellement très floue, ben on va en rajouter d'autres dessus. Donc on va dire, en fait, le problème c'est pas les islamistes radicaux. Or déjà, on avait dit islamiste, ça veut dire musulmans radicaux. Donc les islamistes radicaux, c'est les musulmans radicaux radicaux. Et puis on a vu apparaître des islamistes modérés. Donc au bout d'un moment, on veut bien ne pas être islamophobe, mais il faudrait quand même nous donner la définition des mots, quoi.
Il y a aussi beaucoup d'autres exemples sur l'incompétence journalistique dont vous parlez. Et par exemple, un journaliste a cité le jour de la mort de Dominique Vénère, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Le jour de sa mort, un journaliste a répété en boucle sur sa chaîne Dominique Vénère. Et cette incompétence, veut brouiller un peu les pistes, selon vous ?
Non, alors on peut ne pas être convaincu par ce que je dis sur cet exemple. Moi, ce qui m'a frappé, hein, c'est que bon, le journaliste en question, c'est Olivier Ravanello. J'ai enlevé son nom parce que je ne veux pas le viser personnellement. C'est plutôt quelqu'un de sympathique en plus, hein, comme ça. Mais voilà, pendant une soirée entière, il a dit Dominique Werner et personne, même dans son oreillette, ne l'a repris. Et je me suis dit pourquoi il dit Werner ? Bon, déjà, ça manifeste qu'il ne sait pas qui est Dominique Werner, alors que bon, c'est quand même pas un militant d'extrême droite de base, c'est quand même un historien qui est cité même dans des ouvrages de Finkielkraut, enfin voilà. Et puis pourquoi Werner ? Et j'ai fini par me dire, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que dans la tête du journaliste, extrême droite égale nazi, nazi égale allemand, et donc il avait glissé avec son... Enfin, on a quand même toute une imprégnation de notre imaginaire par un certain nombre de Werner qui viennent du cinéma et qui sont des personnages de nazis, qui fait qu'au final, c'était peut-être ça qui avait contaminé son discours, mais pendant une soirée entière, personne ne le reprendra et il ne se reprendra pas lui-même et il fera cette erreur. Mais on a plein d'autres erreurs comme ça dont on peut faire l'analyse presque psychanalytique. Les journalistes qui se trompent sur le nom de telle ville parce que ils ne savent même pas où aller sur la carte. Donc on a toute une manifestation comme ça de la condescendance ou du peu d'intérêt que les journalistes portent à la province. Parce qu'ils vont se tromper sur le nom de la ville, parce que de toute façon ça les intéresse pas, ils savent même pas où c'est. Donc il y a des exemples comme ça, tout le vocabulaire en rapport avec la religion aussi. Très souvent on a des erreurs, on va voir apparaître des mots qui n'existent pas, l'excommunion ou des choses comme ça. Je donne des exemples dans mon livre qui manifestent que c'est des domaines qui leur échappent complètement, ça ne les intéresse pas et donc ils n'y connaissent rien et finalement leur discours lui-même manifeste leur ignorance.
Autre exemple, celui de Fillon, qui est cité comme étant le président du parti à un moment donné, puisque le journaliste fait l'erreur, et il dit François Fillon, le président François Copé.
Voilà.
Donc c'est finalement cette... cette erreur, elle est due à la rapidité peut-être aussi du langage, en tout cas de l'information qui doit être délivrée.
Voilà. Alors en fait, c'est peut-être important de rappeler qu'en fait ma spécialité universitaire c'est la stylistique. Ça veut dire que, la stylistique ça repose sur l'idée que même si on parle tous français, voilà, bon là on discute ensemble, on se comprend. En fait, on a chacun notre langue et notre langue, elle est marquée par notre culture personnelle, notre origine sociale, notre milieu professionnel, etc. Et en fait, en étudiant la langue d'une personne sous tous ses angles, on peut apprendre des choses sur cette personne. Et donc c'est pour ça que quand j'étudie le journaliste comme espèce d'entité archétypale, je prends son langage comme un sociolecte révélateur et je pars notamment des problèmes de diction, de phrasé. Et à chaque fois j'essaye de montrer qu'il y a des exemples qui sont amusants, bon voilà, et qui sont assez légers et sans incidence. Et à chaque fois je fais une progression jusqu'à des exemples plus embêtants, comme celui que vous venez de citer, où finalement comme on n'a pas de pause dans la phrase, ben, on n'arrive pas à savoir qui est président de l'UMP à ce moment-là, parce qu'ils enchaînent François Fillon, le président du parti, Jean-François Copé. Voilà. Et en fait, la phrase continue après, mais on n'arrive plus à comprendre, résultat, qui est le président en question. Donc je donne un certain nombre d'exemples comme ça. Et mon idée, c'est vraiment de montrer que il y a une langue du journaliste. Non seulement il a sa diction, mais il a son phrasé, il a son utilisation des mots. Je vous donne un exemple très concret. Moi, un journaliste m'a dit qu'un jour, ses collègues lui avaient reproché à la radio d'avoir employé à mauvais escient l'adjectif « nauséabond ». Pour moi, nauséabond, c'est un adjectif. Donc, en langue française, il y a des conditions spécifiques pour employer les adjectifs. Mais il ne peut pas l'employer à mauvais escient ou à bon escient. Seulement, on voit bien que le langage du journaliste va remodeler la langue. C'est un sociolecte qui est en même temps un sous-code idéologique avec ses propres conditions d'emploi de certains mots. Il y a un autre exemple que j'ai déjà été amenée à donner, mais peut-être pas sur cette antenne. Quand nous, on dit... un ancien humoriste, pour nous, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est plus humoriste. Bon, Dieudonné, il est encore humoriste, que je sache, hein, et c'est quelqu'un qui fait encore des tournées, etc. Mais pour les journalistes, notamment sur France Info, c'est un ancien humoriste. Cette qualification, elle a une valeur injonctive. Elle nous dit, en fait, certes, il est encore humoriste, mais vous n'avez plus le droit de rire de ces farces. Voilà, donc c'est devenu un humour interdit. Donc on voit bien qu'il y a une manière de remodeler le langage, qui n'est pas juste une utilisation de la langue, mais une manière de le biaiser.
Je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun, assisté de Léon Morin, et que nous sommes en compagnie de d'Ingrid Riocreux, au sujet de son ouvrage « La langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement ». Et il y a d'autres exemples, évidemment, ce sont les mots doux des journalistes, les mots doux et les mots gentils. Notamment, par exemple, un journaliste va plutôt utiliser « égalité femme-homme » au détriment d'égalité homme-femme. En quoi est-ce que c'est porteur de sens ?
Ben là encore, on voit comment le journaliste, finalement, va finir par s'aligner sur ce qu'il croit être la bonne façon de parler. Et ça, c'est un exemple que je donne parce que j'ai assisté à ce glissement au sein même d'une émission. Au début, c'était une émission où était invitée Caroline Dehas, donc une militante féministe, et elle ne dit évidemment que égalité femme-homme, parce qu'elle veut renverser donc le rapport entre homme-femme, montrer qu'il n'est pas forcément bon de mettre homme avant femme, etc., qu'il n'y a pas d'évidence à le dire dans ce sens, etc. Donc il y a évidemment un emploi idéologique de l'expression. Et au début du débat, le journaliste qui l'animait employait l'expression égalité homme-femme. Et à la fin du débat, il est passé à femme-homme. Donc il avait été imprégné par la façon de parler de celle à qui il attribuait le rôle positif dans ce débat.
Les phobes aussi et les ismes sont des suffixes que vous réprouvez, en tout cas que vous ne considérez pas comme étant tout à fait valables. Pourquoi ?
Oui, alors, en fait, c'est pas que je les conteste en eux-mêmes, si vous voulez. Je suis consciente qu'ils ont un intérêt. Mais ils ont un intérêt, ils ont une légitimité dans la bouche des militants. Hein, ça ne me dérange pas qu'un militant LGBT traite les cathos de la Manif pour tous d'homophobes. C'est de bonne guerre, c'est une manière d'intimider l'adversaire en utilisant un mot qui est conceptuellement très flou mais qui a l'avantage d'avoir une grosse puissance expressive. Mais ce mot n'a absolument rien à faire dans la bouche des journalistes. Ce n'est pas un mot neutre, c'est un terme de militant.
Pourtant, ils sont utilisés et ils ont leur sens. Parce que, par exemple, quand on parle de christianophobie, c'est porteur, ça veut dire quelque chose. Et ça s'oppose à une situation qu'on rencontre évidemment beaucoup dans les médias.
Alors, en fait, ce terme de christianophobie, moi, je ne l'aime pas. Il a été inventé pour concurrencer la notion d'islamophobie. Il manifeste bien une chose, c'est que c'est sur le terrain médiatique que se joue la concurrence victimaire. On avait besoin, pour exister, on a besoin d'avoir sa phobie. Et on l'a vu encore récemment, le mot misogynie ne marchant plus très bien. Il y a un groupe de féministes qui vient d'inventer la gynophobie. On voit bien, là encore, qu'il s'agit d'imposer un concept pour être reconnu comme victime. Tout le problème des termes en phobe, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on met derrière. Là encore, c'est pas moi qui le dis. Il y a une très longue préface à un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2013, je crois, qui dit qu'il faut faire attention à ces termes en phobe parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire et on peut tout mettre dedans. Qu'est-ce que c'est la christianophobie ? Ça va être à la fois un maire laïcard qui interdit telle ou telle manifestation. Ça va être aussi le type un peu aviné qui vient taguer l'église. Ça va être, je ne sais pas moi, une manifestation de musulmans contre, je ne sais pas, les crèches. Enfin, on va tout mettre dedans. Et au final, en plus, les gens qui emploient ce terme aboutissent, à mon avis, à l'idée inverse de celle qu'ils voulaient. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont persuadés, par exemple, que la France a des racines chrétiennes, que donc les religions n'ont pas le même statut à l'intérieur de la République. Et au final, s'il y a l'islamophobie et la christianophobie, vous avez deux concepts qui sont également sur le même plan et qui mettent les deux religions également, totalement sur le même plan. Donc je pense que ce genre de concept, c'est à éviter à tout prix parce que c'est flou, c'est dangereux et ça se retourne contre ceux qui les emploient.
la destruction médiatique et fabrication du consentement. Et cette fabrication du consentement, est-ce qu'elle ne s'applique pas d'abord aux journalistes qui finissent par consentir à tout ce qu'on veut leur imposer ou à tout ce qui leur est transmis d'informations dans tout ce flot d'informations, puisque vous parlez évidemment de Vladimir Volkov et qui écrit, c'est vrai puisque je l'ai vu, et notamment je l'ai vu à la télé, ça, on y pense souvent. Et quand le journaliste croit, vous l'écrivez, être au service du bien, il congédie son esprit critique, il considère uniquement la personne qui parle et ou la cause qu'elle défend, et cela suffit pour lui à légitimer un propos. Un tel l'a dit, donc c'est vrai. C'est d'abord le journaliste qui est victime de la fabrication du consentement.
Exactement. Alors ça, j'y insiste beaucoup dans mon livre parce que je suis un peu indisposée par l'idée que les journalistes seraient de dangereux manipulateurs. En fait, les journalistes, c'est des gens comme vous et moi, hein, ils sont assez normaux. Moi, j'en ai vu passer à la Sorbonne puisque j'enseignais la rhétorique du texte littéraire à des jeunes de licence 3 qui se préparaient à entrer dans des écoles de journalisme. Et ce sont pas des méchants. Hein. C'est des gens qui veulent bien faire. Et je dirais même qu'avant d'entrer dans les écoles de journalisme, ils peuvent être politisés, mais ils veulent faire leur travail correctement et ils ont un certain idéal de ce métier, un petit peu comme les profs ont un idéal du métier de prof, idéal qu'on va leur bousiller durant leurs années d'IUFM ou d'ESP maintenant. Et ben de même, on va bousiller l'idéal du journaliste qu'ont les jeunes journalistes quand ils passent par les écoles de journalisme. Et au final, le journaliste se retrouve dans ce que le sociologue Alain Accardo appelle un entre-deux social, c'est-à-dire que il n'est pas le grand Manitou, il n'est pas du tout à la manette, ce n'est pas lui qui fait l'actualité, mais c'est lui qui va la mettre en mots, c'est lui qui va laisser passer à travers lui un certain nombre d'idées et qui va nous les transmettre. Et le problème, c'est que bien sûr, s'il nous transmet des idées, s'il nous impose une manière de penser, c'est d'abord parce que lui-même, il en est imprégné. Et donc, je donne un certain nombre d'exemples dans mon livre où on est face à une espèce de démonstration de naïveté du journaliste. C'est-à-dire qu'il va effectivement dire... Mais la théorie du genre n'existe pas, le ministre l'a rappelé ce matin. Voilà, donc maintenant, voilà, quand le ministre dit quelque chose, il n'est pas possible d'envisager que le ministre nous manipule ou nous mente ou quoi que ce soit. Non, non, le ministre l'a rappelé, attention. Donc de temps en temps, d'un seul coup, on a une posture de journaliste qui est totalement anti-journalistique et qui relève de la plus parfaite naïveté et même de l'incompétence.
Et il y a une période qui a été assez frappante, c'est la période « Je suis Charlie ». Et vous écrivez, il est vrai que l'échelle de valeurs journalistiques réconcilia tout le monde quand s'imposa le slogan « Je suis Charlie ».
Oui, bah là c'était assez amusant parce que enfin on voyait bien que c'était gênant, il fallait pas que les musulmans soient uniquement du côté des méchants. Donc on est allé chercher ce policier musulman qui a été tué devant les locaux de Charlie. Mais en même temps, on a passé complètement sous silence le fait que la policière tuée le lendemain était catholique. Il est vrai que ça n'avait pas d'importance, mais ça n'avait pas non plus d'importance que le policier en question soit musulman puisque quand il a été tué, manifestement, les gens qui l'ont tué ne le savaient pas. Deux jours plus tard, les gens qui ont été tués à l'hypercachère, bon, c'était des juifs, donc forcément, ils n'étaient pas tellement pour qu'on fasse, le problème de Je suis Charlie, c'était qu'on oubliait les victimes juives visées en tant que juifs, alors qu'on essayait en même temps de construire l'idée d'un musulman visé en tant que musulman, ce qui était totalement invraisemblable. Donc finalement, le Je suis Charlie, ça faisait que la vraie victime dans cette affaire, c'était le journaliste. Et moi, je suis frappée du fait qu'ils ont tous arboré leur petit badge Je suis Charlie, mais quand il y avait eu, par exemple, les assassinats de petits enfants devant l'école juive aux Aratora par Mohamed Merah, il n'y avait pas eu de petit badge, alors que c'était tout aussi atroce et même particulièrement frappant pour l'imaginaire, quoi. Donc ils étaient contents parce que c'était eux les victimes, si vous voulez, et ça permettait d'évacuer la concurrence victimaire que le journaliste, en fait, entretenait lui-même autour de cette affaire avec le devoir absolu qu'il s'imposait de trouver du musulman victime.
Alors Ingrid Riocru, il y a un exemple, c'est l'assassinat du jeune Hakim. En quoi est-ce que cet exemple repris, enfin ce fait repris dans les médias démontre une construction de la victime et de l'identité de la victime?
Oui, alors ça c'est un exemple qui est particulièrement intéressant parce que il montre ce glissement de l'éthique du vrai à l'éthique du bien qui découle de ce que le journaliste appelle sa responsabilité. Il ne doit pas nous laisser penser n'importe quoi. Quand je vous dis ça, je cite un journaliste qui m'a dit vous comprenez bien qu'on peut pas laisser les gens avoir des pensées horribles. Et en fait, donc je rappelle les faits, c'était donc un jeune qui s'appelait Islam et qui a assassiné un camarade, un dénommé Hakim, dans l'enceinte de leur lycée. Et bon, il n'y peut rien s'il s'appelle Islam. Je veux dire, il a pas choisi son prénom. Et donc l'information, c'est Islam a tué Hakim. Et en fait, telle qu'elle a été diffusée cette information, je donne de nombreux exemples dans mon livre. On a insisté sur le fait que la victime s'appelait Hakim et on a cherché au maximum à ne pas donner le nom de l'assassin. L'assassin a été désigné comme l'assassin du jeune Hakim. Donc il y a tout un tas de périphrases et de détours pour ne surtout pas donner le nom de l'assassin. Alors que encore une fois, il y peut rien, c'est pas lui qui a choisi son prénom. On voit bien que c'est le journaliste qui anticipe la réception de cette information et qui se dit attention, si je donne le nom, les gens vont penser que les gens vont associer la violence d'un garçon qui s'appelle Islam avec la violence de l'islam, etc. C'est évidemment totalement contre-productif puisque l'information en question, elle était disponible évidemment sur internet et surtout c'est devenu l'information principale sur les sites de réinformation qui titraient sur l'assassin s'appelle en fait Islam, Islam a tué Hakim, etc. Donc au final, il croit bien faire le journaliste. Il croit que ça y est, il endosse le rôle du professeur de morale, qu'il fait attention à ce qu'il dit, il peut pas dire n'importe quoi, sinon les gens vont avoir des mauvaises pensées, mais c'est totalement contre-productif.
Je rappelle que à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun, assisté de Léon Morin, et que nous recevons en ce moment dans les studios Ingrid Riocreux sur son dernier ouvrage, La langue des médias, publié chez L'Artilleur. Et Ingrid Riocreux, vous justement parlez aussi du décryptage, l'obsession du décryptage. Mais de fait, je cite, le mot décryptage ne veut plus rien dire lorsqu'il est employé à tort et à travers.
Oui. Ça, le mot décryptage, il y a des émissions entières qui s'appellent décryptage. Si vous voulez voir un exemple particulièrement, atterrant, c'est l'émission CQFD le vendredi soir sur iTélé. Ça s'appelle donc Ce qu'il fallait décrypter. Et vous avez une brochette de communicants qui échangent sur l'actualité de la semaine. Et en fait, ils vont décortiquer des stratégies de communication. Et puis, on s'entrefélicite. Et puis, on rigole, etc. Il y a absolument aucun décryptage. Au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire un décodage de l'actualité, une remise en cause des mots qu'on a employés pour parler de telle ou telle chose. Ça devrait être ça, le décryptage. Il y a quand même l'idée de mettre au jour un sens caché, et le sens caché, c'est tout simplement l'implicite du discours. C'est ce qui va, le choix presque inconscient, souvent inconscient, qui va présider au choix, à la détermination du lexique que l'on va employer pour traiter tel ou tel événement. Hein, moi, quand après, je vois des choses du genre décodage du dispositif de lutte contre décryptage du dispositif de lutte contre Ebola. Non, c'est pas un décryptage. On nous explique comment on va lutter contre Ebola. Il y a absolument aucun décryptage là-dedans. Mais ça donne l'illusion que le journaliste est dans une posture d'analyse, d'investigation, alors qu'en fait, pas du tout.
Et une auditrice nous écrit, Madame, vous êtes trop gentille avec les journalistes qui sont triés sur le volet. Est-ce que vous lui répondez, vous êtes trop gentille?
Je suis pas complotiste. Et le fait d'avoir eu en face de moi des jeunes futurs journalistes, dont certains sont maintenant exercent, mais même si pour ils sont en début de carrière, donc ils sont dans des médias peu influents, on va dire, ou dans la presse spécialisée. Donc pour moi, j'ai vu que les journalistes c'était des gens normaux. Et je pense aussi que le fait de faire le parallèle avec ma propre situation, de voir qu'en fait il arrive aux journalistes la même chose qu'aux profs, ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que ce sont pas des gens méchants, si vous voulez, pas des grands manipulateurs. Je crois vraiment à ce que je dis quand je dis que je pense que ce sont à l'origine des gens qui ont une certaine vision de leur métier et qui ne se considèrent pas comme étant au service d'une idéologie. Seulement, ils passent par le filtre des écoles de journalisme qui sont, d'après ce que j'ai appris, et pour beaucoup, ce sont des choses que j'ai apprises après la sortie de mon livre, des choses qu'on m'a dites, qu'effectivement, dans les écoles de journalisme, c'est beaucoup moins une formation qu'un formateur que l'on reçoit.
Et vous avez dit prof, encore une fois, puisqu'un auditeur nous a relevé Ne dites pas prof, mais professeur. Et il ajoute, malgré tout, vous êtes brillante.
Moi, j'aime bien prof parce que ça m'évoque le petit nain avec une grosse barbe dont Blanche-Neige avait 7 nains. C'est mignon, quoi.
Et une autre auditrice écrit formidable. Madame Riocreux devrait passer aux 20h et sur toutes les chaînes que les Français se réveillent. C'est tellement clair ce qu'elle raconte, bon sang, mais c'est bien sûr. Bravo.
Merci, mais il n'y a absolument aucune chance que je passe aux 20h, puisque justement mon livre vise à dénoncer le discours qu'on nous sert tous les jours aux 20h.
Mais vous avez quand même des journalistes qui ont dû vous contacter après, qui ont voulu parler, évoquer ce sujet-là avec vous.
Oui, oui. Mais effectivement, moi j'ai été frappée. Bon, évidemment, les journalistes qui m'ont contactée, c'était pas tout à fait une surprise. C'est-à-dire, c'est des gens dont on sait qu'ils sont assez critiques vis-à-vis de leur propre profession. Mais même lors des émissions, ce qui m'a frappée, c'est les confidences hors antenne, c'est-à-dire tout ce qu'on va me dire sur « Ah oui, c'est vrai », ou alors « Ah, je m'étais pas rendu compte de ça, ça m'a fait penser à telle chose, ça m'a fait penser à quand on a parlé de tel événement ». Et en fait, je pense que ils sont pas hostiles dans la mesure où ça leur donne à réfléchir sur leur propre façon de travailler. Et j'aime bien rappeler aussi que quelques jours avant la sortie de mon livre est paru un rapport de l'ODI, l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui est un document rédigé annuellement, je crois, par cet organisme, donc l'ODI, auquel collaborent l'AFP, des grandes écoles de journalisme, Le Monde, etc. Et c'est un document qui est, il faut le consulter, hein, il est en ligne, tout le monde peut le lire. Il y a un document qui est extrêmement sévère. Et il n'hésite pas à dire qu'il y a des reportages qui sont porteurs de parti pris énormes, à tel point qu'on a des faux témoignages filmés à l'antenne, le problème des musiques qui sont greffées sur les reportages et qui vont complètement orienter la réception des faits, etc. Donc il y a quand même une certaine lucidité au sein de la profession sur la limite de cette éthique de la responsabilité et sur les problèmes que cela pose en termes d'éthique du journalisme. Seulement, il est évident que entre en jeu après, tous les problèmes liés au financement de la presse, à l'actionnariat, à la pression idéologique, et puis on ne se défait pas comme ça d'une lecture morale du monde. Les journalistes, ils lisent les choses en termes de bien et de mal, et c'est extrêmement difficile de leur faire reconnaître ça, parce qu'ils sont persuadés que la lecture en termes de bien-mal, c'était avant. Voilà, la morale, l'ordre moral, c'était ce dont la liberté de la presse nous aurait libérés. Or, pas du tout. Et on voit bien que, notamment, le pluralisme, c'est un mythe. Ça ne correspond absolument pas à la réalité des médias actuels.
Donc, finalement, le vrai décryptage existe, mais il n'apparaît pas dans les médias.
C'est ça, c'est un petit peu une cuisine cachée. Et puis, voilà, ça, c'est sans effet pour des raisons multiples. Et malheureusement, des raisons qui font que c'est pas prêt de bouger, peut-être.
Pourtant, le système... a l'air de se réveiller un petit peu. Vous avez parlé de la réinfosphère. Est-ce qu'elle est elle aussi soumise à ces tics médiatiques, ces tics de langage, ces façons de faire que vous décrivez dans votre ouvrage?
Alors il y a aussi de la manipulation dans la réinfosphère. Je donne quelques exemples dans mon livre, mais bon, à la limite, ça, et vu qu'il y en a partout, bon, c'est même plus surprenant. Le problème de la réinfosphère, si vous voulez, c'est qu'elle est en train de reproduire le mode de fonctionnement des grands médias. Les grands médias en fait se contentent du fil AFP. Grosso modo, on a les mêmes informations partout avec les mêmes mots, et on se rend compte que la réinfosphère est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que quand il y a une information qui est produite, je sais pas moi, sur le Salon Beige par exemple, elle va être reprise sur tous les autres médias de la réinfosphère, et le plus souvent sans être vérifiée. Donc je montre par exemple comment des citations tronquées ou même des citations fausses ont pu circuler, et malheureusement, pour les gens qui, dégoûtés des grands médias, se sont réfugiés dans cette réinfosphère, au final c'est un piège aussi, parce que ils n'ont pas de regard extérieur, et ils ont tendance en plus à perdre leur esprit critique quand ils se retrouve dans cette réinfosphère. Donc c'est pour ça que moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est la communautarisation de l'information. L'impression que, quand on pense de telle façon, on va aller consulter tel média. Moi, je pense qu'il faut aller regarder partout. Il faut essayer de regarder le monde avec les yeux des autres, et il faut surtout pas s'enfermer dans une sphère informative, parce que sinon, on a tout le temps les mêmes mots, tout le temps les mêmes informations. On n'a plus de pouvoir de vérification. Il y a autre chose qui me gêne dans la réinfosphère, c'est l'impression qu'elle n'existe que par rapport à l'infosphère. Et je citais récemment dans une conférence un article de Alice Krieg, donc qui est une chercheuse universitaire, qui a écrit un article sur l'emploi de SIC dans la presse d'extrême droite. Bon, elle parle d'extrême droite, elle prend position très clairement sur ce qu'elle pense de cette presse-là, mais l'emploi, qu'elle ait pu travailler sur l'emploi de SIC, sur l'abondance des guillemets, de la dissociation énonciative, de la manière dont la réinfosphère se dissocie du langage de l'infosphère officielle, ça montre bien que cette réinfosphère n'existe que par rapport à l'infosphère. Et pour l'instant, si vous voulez, elle n'a pas, cette réinfosphère n'a pas créé son langage. Elle traite les mêmes informations que les grands médias, et elle traite cette information avec les mêmes mots, mais avec des guillemets. On va dire migrants avec des guillemets, ou les soi-disant migrants, par exemple. Et on ne va pas choisir de traiter d'autres sujets pour montrer que la sélection de l'information elle-même était contestable dans les grands médias. On ne va pas constituer son propre lexique contre le lexique des grands médias. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire, qui passent peut-être par la création de d'écoles de journalisme de la réinfosphère, mais... au final, il faut essayer d'exister de manière indépendante, quoi.
Il y a une école de journalisme qui existe de la réinfosphère, puisqu'elle a lieu cet été, et je vous invite à vous renseigner d'ailleurs à ce sujet en écoutant le matin le bulletin de réinformation de Radio Courtoisie. Vous écrivez aussi, Ingrid Rio-Creux, que l'erreur de nos oligarques réside dans le fait de croire qu'une société d'abrutis est un troupeau bêlant, docile et calme, alors que c'est une meute d'individus féroces, en guerre perpétuelle les uns contre les autres. La guerre perpétuelle, elle est à venir, elle est la cause aussi de du langage médiatique qui est toujours le même et toujours utilisé par les journalistes.
Ben en fait cette remarque, c'est l'aboutissement d'une étude que je fais dans la conclusion de la corrélation entre éducation par les médias et éducation par l'école. Et il est évident que cette espèce de formatage, de surveillance des esprits qui passe par les cours d'éducation morale et civique, qui passe par le discours des médias de mise en garde contre la réinfosphère, etc. Ce formatage ne peut que au final être contre-productif et aboutir à un rejet massif et une accentuation de la communautarisation de l'information. C'est-à-dire qu'au final, chacun va aller chercher ses informations dans son coin, chacun va camper sur ses positions, et ça ne peut donner que une cristallisation des affrontements, une incompréhension des groupes entre eux. Et c'est évident qu'à terme, avec en plus cet abrutissement général qui résulte de la dégradation de l'éducation et de l'instruction, on va vers une substitution de la violence physique à la violence, une substitution à la violence verbale de la violence physique. C'est-à-dire que quand les gens ne seront plus capables d'argumenter, ben ils vont se taper dessus. Et comme l'école ne donne pas les moyens intellectuels de lutter pour défendre ses positions, comme les médias écrasent les débats en plus, ben au final, ça va se manifester autrement.
La réinfosphère, pourtant, prévient beaucoup de la guerre civile qui vient, puisque le général Tauzin en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, en citant l'ouvrage d'Yvan Rioufol, qui est journaliste au Figaro. Les médias sont en train de se réveiller, il y a des choses qui bougent.
Je pense plutôt qu'ils sont le symptôme à travers lequel se manifeste que cette guerre civile vient vraiment. Si vous voulez, puisque en fait chaque média, enfin chaque sphère médiatique devient la cristallisation d'une manière de penser qui ne laisse pas de place au camp d'en face. On a des affrontements qui pour l'instant se font par les mots, par la traque du dérapage, etc. Mais on voit déjà que on est passé de l'affrontement intelligent à l'affrontement stupide, et au final de la stupidité à la violence, il n'y a qu'un pas.
Et la traque des mots, pour vous, c'est précurseur, la traque, pardon, des dérapages, c'est précurseur de la guerre civile qui vient.
Ben, c'est-à-dire que on ne laisse pas l'autre exister avec sa pensée, puisque sa pensée est interdite. Donc, quand vous dites à quelqu'un qui n'a pas le droit d'exprimer telle manière de penser parce qu'elle n'est pas dans les clous, parce qu'elle est moralement mauvaise, vous le poussez à la radicalisation.
Un auditeur nous écrit qu'un grand merci d'abord pour ce magnifique exposé. Et il ajoute, il est dommage que vous ne voyiez pas l'intention derrière les faits. Si vous voulez vraiment connaître l'intention, regardez ce qui est. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ben, moi, je me méfie de quand on prétend savoir qu'il y a un complot caché quelque part, si vous voulez. Je suis tout à fait prête à admettre que on me manipule. Bon, voilà, quand j'écoute la radio et tout, mais ça c'est évident. Mais je n'irai pas moi-même jusqu'à prétendre que je sais qui nous manipule et dans l'intérêt de qui, etc.
Je crois pas que c'est ce que dit notre auditeur. Mm-hmm. Et reconnaître qu'il y a des forces actives et des groupes organisés dans les médias, c'est pas reconnaître l'existence d'un complot centralisé avec un chef à sa tête. C'est peut-être tout simplement faire une distinction entre les jeunes journalistes que vous avez fréquentés, qui n'avaient peut-être pas, qui n'étaient pas animés par une idéologie lorsqu'ils se dirigeaient vers le journalisme, et au sein de l'école, au sein du journalisme, l'existence de journalistes qui, eux, sont porteurs d'une idéologie.
Oui.
Je pense qu'il faut faire une distinction.
D'accord.
Vous parliez de médias d'information, par exemple, une personne comme Ruth Elkrieff ou un présentateur lambda qui lit un écran avec les filets AFP, je crois qu'il y a une différence là, fondamentale à opérer, entre quelqu'un qui a une motivation idéologique et qui le dit, comme tel, elle ou bien d'autres, on pourrait multiplier ceux qui sont engagés dans le journalisme avec un objectif politique important.
Oui.
Même Michel Drucker, qui est un animateur, reconnaît qu'il s'est engagé, qu'il voulait être dans les médias avec des visions politiques, avec une vision idéologique, alors qu'il était présenté comme un animateur de variété. Donc je crois qu'on peut peut-être pas l'extraire, c'est peut-être le message que vous voulez dire.
Oui, dans ce cas-là, oui, effectivement. Mais comme vous dites, en général, ils le reconnaissent assez. Hein. Moi, j'aime bien le passage où...
Souvent en fin de cursus, en fin de carrière.
Ah oui.
Pas quand ils sont, sinon ça délégitime leurs propos.
Oui,
mais c'est
alors
la fin,
effectivement,
quand ils prennent leur retraite,
voilà,
ils le disent.
C'est confirmé, effectivement, par l'exemple que j'allais vous donner quand Marine Le Pen dit à Patrick Cohen, vous êtes un adversaire politique déguisé en journaliste. Et moi, j'aime bien sa réaction parce qu'il a l'air à la fois pris de court et en même temps, c'est pour lui, c'est une évidence. Bah oui, évidemment. Enfin, on voit sur son visage que oui. Enfin, s'il est journaliste, c'est parce qu'il n'est pas au Front National. C'est même parce que il lutte contre le Front National. Voilà, pour lui, c'est une évidence. Donc, je pense que effectivement, cette dimension de combat idéologique, elle est présente chez les journalistes. Mais en général, elle se dévoile facilement. C'est-à-dire que c'est les journalistes qui ont le discours le plus agressif, par exemple.
Ouais, certains sont visibles, mais certains le sont moins dans le choix des sujets, qui est éminemment stratégique, le traitement de la problématique, etc. Tout ça peut être présenté comme assez neutre.
Oui, oui.
Mais extrêmement.
Mais c'est ça
orienté.
Le problème, évidemment. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que la réinfosphère devrait jouer là-dessus aussi, pas uniquement dénoncer l'orientation qui est derrière le traitement de telle ou telle information, mais aussi dire ah ben regardez, on vous parle énormément de ça ces temps-ci, mais pendant ce temps on ne vous parle pas de telle chose. C'est-à-dire remettre en cause la hiérarchie des informations et la sélection des informations qui sont traités.
Mais là, il y a un choix, et donc on ne peut pas faire abstraction, il est difficile de faire abstraction de la volonté. Certains ne le font pas volontairement, mais les directeurs de rédaction sont là et font des choix qui peuvent être animés par des raisons idéologiques.
Bien sûr.
Ou par l'air du temps.
Oui, oui, c'est ça. Oui. Et souvent, ils pensent n'être que le reflet de l'air du temps, alors qu'en fait, ils défendent sans s'en rendre compte. Ils se mettent au service d'une stratégie de communication, d'un lobby, d'une coterie, il faut dire ici, donc une coterie. Voilà, bien plus que d'un parti politique d'ailleurs en général. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se lit.
Et un autre auditeur tout à l'heure nous parlait des journalistes qui étaient triés. Là aussi, je suis pas sûr que il y ait forcément de complot organisé pour le tri, mais il y a une sélection qui se fait. Concrètement, un journaliste qui, comme Monsieur Le Quintrec, qui était un journaliste bien connu de la maison de Radio France, s'était contenté de faire une revue de presse dans laquelle il avait cité présent dans sa revue de presse. Il a été mis au placard. À l'inverse, quelqu'un qui cite allègrement l'Humanité a sans doute plus de chances de progresser dans certaines maisons plus que d'autres.
Oui, voilà. Oui, mais ça c'est certain.
Enfin voilà.